Nous accueillons aujourd'hui Maître Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration et membre du barreau du Québec. Bonjour, Maître Enfield.
Bonjour.
Maître Enfield, nous vous accueillons aujourd'hui parce que vous venez de publier un livre chez Wilson et Lafleur. Ce livre est intitulé Immigration et criminalité, quand l'expulsion devient inévitable. Alors, dans ce livre, on comprend bien que les motifs d'expulsion sont divers, mais vous, vous vous êtes intéressé spécifiquement à ceux liés à la grande criminalité, à la criminalité et à la criminalité organisée. Pouvez-vous
Exact.
nous expliquer succinctement ces trois notions?
Oui, ben en fait, c'est simple, hein? Lorsqu'on parle d'interdiction de territoire pour grande criminalité, alors ce sont des infractions qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans. Ça ne signifie pas que l'individu va être condamné pour une peine d'emprisonnement de 10 ans, mais si au code criminel, par exemple, l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans, on vise la grande criminalité. Si la personne, peu importe la nature de l'infraction, est sentencée à une peine d'emprisonnement de plus de 6 mois, eh bien, ça vise également la grande criminalité. Au niveau de la criminalité, ben, c'est toute infraction au code criminel qui est passible de la criminalité, sauf évidemment pour un résident permanent. Donc là, on pourra embarquer plus amplement dans le volet des différents statuts, mais la criminalité, c'est évidemment toute infraction, toute condamnation au code criminel ou à une loi fédérale. Et évidemment, criminalité organisée, bon, ça le dit, hein, c'est bon, ceux qui sont membres, par exemple, d'une organisation
Gang.
criminelle, gang de rue, mafia, motards criminalisés, etc.
Vous avez bien fait de signaler que ces expulsions concernent les gens qui ne sont pas citoyens canadiens. Ça concerne les résidents permanents et autres statuts. Dites-moi, une personne qui est condamnée puis elle est expulsée, est-ce qu'on n'est pas dans la double peine?
Ben, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer un peu par la rédaction, la publication de ce volume, c'est qu'effectivement, dans certains cas, on constate que bon, il peut y avoir certaines lacunes au niveau du droit criminel, et donc on semble utiliser dans certains cas le volet immigration, donc le volet du droit de l'immigration, pour pallier à ces lacunes du droit criminel. Alors évidemment, moi je suis d'opinion que si une personne, peu importe son statut au Canada, si elle commet une infraction criminelle, bon, on doit l'arrêter, l'accuser, la juger et la condamner le cas échéant. Par la suite, bien évidemment, selon les cas, le volet immigration pourrait intervenir, mais je trouve que trop souvent, il intervient pour poser ce qu'on appelle évidemment une double peine. Vous savez, en droit criminel, c'est illégal. La Constitution canadienne, la Charte canadienne des droits et libertés interdit l'imposition de double peine. Malheureusement, en droit de l'immigration, ça semble pas être le cas.
Si je comprends bien, l'expulsion relève du de la loi sur l'immigration et sur la protection des réfugiés et ne relève
Effectivement.
pas du droit criminel, du code criminel, pardon.
Pas du tout. Alors, d'ailleurs, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada qui est seule responsable du volet expulsion d'une personne non citoyenne canadienne au Canada.
Écoutez, Maître Enfield, nous, quand on entend le mot grande criminalité, et puis on trouve que c'est une personne qui peut être condamnée à 2 mois selon une infraction qui pourrait atteindre les 10 ans à 2 mois, pour moi, ce n'est pas de la grande criminalité. Pourquoi ces grands mots, si on peut dire?
Ben, c'est des mots qui font peur, qui peuvent, dans certains cas, sembler justement, hein, lorsqu'on parle de grande criminalité, bon, ça vise des grands criminels, des meurtriers, des grands
Exactement.
trafiquants de cocaïne, d'héroïne, etc. Mais pas du tout. On le voit, une personne qui malheureusement commet une erreur, bon, la période des fêtes est à nos portes, prend un verre de trop, ça peut arriver, ce n'est pas souhaitable, ça peut
Oui.
arriver, se faire arrêter dans un barrage routier, passe l'ivresse au maître, il est accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Bien, au code criminel, cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans. L'individu, pour une première sentence, aura possiblement la peine minimale, qui est une amende de 1 000 $, avec des conditions à respecter. Cependant, il sera, s'il n'est pas citoyen canadien, sera visé par une interdiction de territoire pour grande criminalité au Canada, ce qui signifie perte de la résidence permanente, mesure d'expulsion. Évidemment, puisqu'il n'aura pas reçu une sentence d'emprisonnement de plus de 6 mois, conservera un droit d'appel devant la section d'appel de l'immigration où il pourra invoquer, entre autres, les motifs d'ordre humanitaire. Donc, ça fait 20, 30, 40 ans qu'il est au
Ouais.
Canada, seule condamnation. Mais quand même, une conduite avec faculté affaiblie, ne serait-ce qu'une amende de 1 000 est considérée pour de la grande criminalité aux yeux de l'immigration.
Donc, on est rassuré. Vous n'êtes pas l'avocat du diable. Donc, vous êtes l'avocat de gens qui ont des droits.
Absolument. Ben, j'espère.
Alors, Maître Enfield, dans votre livre, vous avez compilé quelques chiffres. Alors, vous dites qu'en 2018, 6083 personnes ont été expulsées du Canada, tout motif confondu. Et le gouvernement voudrait même avait une cible de 10 000 personnes. Exact. Et comme vous l'avez bien mentionné, ces mesures sont exécutées par l'Agence des services frontaliers. Mais en même temps, on a des chiffres qui disent que 48 000 personnes sont recherchées par les services frontaliers. On a l'impression que le processus peut s'étirer et que les avocats peuvent aussi l'étirer et qu'à la fin, il y a des gens qui restent, qui ne sont pas expulsés.
Il faut savoir que dans ce statistique d'individus qui sont recherchés par les services frontaliers pour expulsion, ça inclut évidemment toutes catégories confondues. Pas seulement que les gens qui sont criminalisés, mais par exemple un demandeur d'asile dont la demande aurait été refusée, qui ne se présente pas pour renvoi, fait partie de ces statistiques. Ce qui est important aussi à noter, une personne qui aurait quitté le Canada volontairement, mais qui n'aurait pas confirmé son départ auprès d'un agent des services frontaliers à l'aéroport, sera considérée comme étant une personne recherchée par l'Agence des services frontaliers du Canada. Okay. Alors, ça ne signifie pas que la personne est toujours au Canada. Dans certains cas, des individus qui sont décédés, hein, mais qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrestation, donc recherchés par l'Agence des services frontaliers. Ils sont évidemment toujours inclus dans ces statistiques de personnes recherchées pour fin de renvoi du Canada.
Vous allez les expulser, ces gens-là. Le gouvernement va les expulser. Il va les expulser chez eux. Mais ce chez eux n'est pas nécessairement en dehors du Canada ou du Québec. Par exemple, si on prend le cas du rappeur Inima, qui est arrivé à 11 ans. Le rappeur Inima, c'est un jeune homme qui a 26 ans. Il est d'origine algérienne. Il est arrivé ici à 11 ans. Il n'a pas eu sa citoyenneté canadienne. Et il y a beaucoup d'autres cas comme celui-là que... Ce chez soi, ce chez lui, est-ce que c'est au Canada? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inhumain quelque part ici?
Mais c'est effectivement ce que j'ai tenté aussi d'expliquer par le biais du manuscrit. C'est-à-dire qu'on expulse un individu ou une personne vers son pays de citoyenneté. Maintenant, lorsqu'on parle de son chez lui, dans bien des cas, ce chez eux, c'est au Québec, c'est au Canada. Je faisais référence à certains cas où les individus sont arrivés au Canada en très bas âge. Hein? Dans certains cas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils sont au Canada depuis 30, 40, 50 ans. Ils n'ont, dans bien des cas, ils ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine, dans le pays de citoyenneté. Et malgré tout, on va les expulser vers ce pays parce que c'est le pays de citoyenneté, alors qu'ils ont vécu toute leur vie. Ils ont eu leurs enfants, ils se sont mariés, ils ont leurs petits-enfants, toute leur carrière professionnelle est au Canada. Et parce que, la loi fait en sorte que la personne ayant commis des infractions criminelles au Canada perd sa résidence permanente, mesure d'expulsion. Et dans certains cas, le ministre refuse, de par son pouvoir discrétionnaire, d'intervenir pour des considérations humanitaires. Parce que le ministre, on le sait,
oui, peut intervenir,
effectivement. Et donc, la personne se retrouve, dans bien des cas, seule dans un pays qu'elle ne connaît plus. Ce n'est pas son pays. Hein, c'est son pays de citoyenneté, tout simplement.
C'est tout simplement. Merci pour ces précisions, Maître Enfield. Dites-moi, est-ce que l'expulsion est évitable?
Oui. Mais comme je le disais, hein, l'exemple que je donnais, c'est un peu le train. Hein. Une fois qu'on est embarqué dans le train, dès qu'il quitte la gare, doit se rendre à destination. Alors, si on veut l'arrêter, à part le faire dérailler, c'est très difficile. Donc, si une personne est visée par une procédure d'interdiction de territoire pour grande criminalité, pour criminalité ou pour crime organisé, eh bien, oui, il est possible de pouvoir éviter l'expulsion, mais ça va être difficile.
Parfait. Dites-moi, Maître Enfield, vous avez écrit ce livre. Quelle était la chose la plus difficile dans l'écriture de ce livre, sachant que c'est un livre qui peut être lu autant par les spécialistes que par Madame et Monsieur Tout-le-Monde?
Pour moi, ça, justement, c'était que le document soit accessible. Et lorsque je dis accessible, évidemment, au niveau du contenu, au niveau du volume, hein, je voulais pas écrire une brique de 200-300 pages. Je voulais que me limiter à vraiment le sujet concerné, qui est l'immigration et la criminalité, parce que trop souvent, j'ai des discussions avec des confrères, bon, des criminalistes qui me disent, ben, qu'est-ce qui arrive s'il y a telle situation, appeler à faire des formations souvent sur le même sujet, ou lors de rencontres familiales où on me dit, ben, Stéphane, comment se fait-il que Madame X est expulsée alors que Monsieur Y, lui, ne l'est pas? Donc, on a souvent ces discussions-là, et au niveau de l'opinion publique, on est souvent confronté au fait que s'il n'est pas canadien, s'il a commis une infraction, qu'on l'expulse. C'est pas aussi simple, hein? C'est pas toujours aussi tranché comme situation. Il y a beaucoup plus souvent de zones grises. Et c'était vraiment d'essayer de focusser sur cette question-là. Et comme je vous dis, je me répète, c'est que le document soit accessible, pas seulement aux avocats, pas seulement qu'aux juges, mais à monsieur et madame tout le monde qui s'intéresse à ces questions-là.
Merci, Maître Stéphane Enfield. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de l'immigration et membre du Barreau du Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.